Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Jean-Paul Nassivet le dit lui-même, mon nom n'est pas connu. Il est par contre connu des lecteurs de la Gazette de Bali pour les photos qu'il publie régulièrement. Ce photographe français de 67 ans fait partie des grands noms de la profession. Un nom que toutes les agences photos de la planète ont eu dans leur contact à un moment ou à un autre. Jean-Paul Nassivet a déjà scanné plus de 350 000 images de la collection, toutes issues de ses voyages. Dans cette émission Regarde ailleurs, écoutons l'histoire d'une vie d'aventure, rencontre avec Jean-Paul. Donc Jean-Paul, je suis dans un endroit magnifique qui est chez toi. Je vais peut-être te laisser commencer par présenter, poser le cadre. De créer une dimension visuelle à celui qui va entendre cette émission.
À la manière Google, alors on cherche un endroit et la planète commence à tourner. Et on arrive sur l'Asie d'un seul coup et puis ça plonge, ça plonge, ça plonge. Et puis on a l'Indonésie qui apparaît et puis ça continue. Et puis là on arrive sur Bali. Et sur Bali, ben on est dans la région de Seminyak. Pour ceux qui connaissent Bali, ils vont s'y retrouver certainement. Et on est dans un petit havre de paix. Et comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas vraiment de nuisance. Et c'est possible qu'on voit des hérons, des poules d'eau, des martins pêcheurs qui viennent se poser sur les branches, là, puis qui viennent nous voler les poissons qu'il y a dans le...
Alors qu'on est en ville.
Et on est en ville, voilà. On est en ville et souvent on entend plus les vagues ou des choses comme ça.
Donc on est posé sur un canapé, en face de nous une mare, pas loin une piscine, une maison en bois, au calme, au frais, alors que c'est pas évident parce qu'ici à Bali il fait quand même très chaud. Mais c'est pas tellement à ton environnement intérieur et extérieur que je vais m'intéresser, c'est plutôt à toi, Jean-Paul Nassivet, que j'ai rencontré, ou que je viens de rencontrer, mais je t'ai vu à travers une galerie photo que tu as à Ubud. Me voilà maintenant chez toi. Donc,
C'est le passionné de photo donc, qui est arrivé, qui a découvert la galerie d'abord.
Bah, c'est ça, quand on est photographe, on regarde un petit peu ce que font les autres photographes, et c'est comme ça que j'ai vu ton travail à Ubud. Puis donc je suis chez toi et j'ai envie de prendre le temps de te connaître et surtout partager un peu ton expérience de vie avec tous ceux qui écoutent cette émission. Donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs, c'est vraiment offrir un regard sur l'ailleurs et échanger, partager les expériences de vie des gens que je rencontre en France, à l'étranger, un peu partout. Ça peut être dans un bus, dans un train, dans un avion ou alors comme là maintenant ici chez toi. Donc Jean-Paul, si tu devais te présenter, qui es-tu ? Avant de me parler de ton histoire avec le voyage, j'aimerais que tu me parles de toi.
Donc là, on quitte Bali, on quitte l'Indonésie et on retourne en France. Et dans l'ouest de la France, je suis né en Vendée, donc près d'un lieu très très connu, le Puy du Fou. Le spectacle du Puy du Fou, tout le monde connaît là. Voilà. Et donc dans une ferme. En fait, le petit Jean-Paul est né dans une ferme. Et donc, à 2 kilomètres d'un bourg. Donc, vraiment, les fermes sont isolées en Vendée. Donc, comment arriver ensuite à la photo?
Avant d'arriver à la photo, peut-être le voyage. Donc, petit Jean-Paul est né dans une ferme. Mais c'est un jour posé la question d'aller voir ce qui se passait en dehors des murs de cette ferme.
Voilà. C'est-à-dire que... Avant de finir même le programme d'études, d'aller dans la sismique, c'est-à-dire une société, la Compagnie Générale de Géophysique, qui travaillait sur toutes les mers et tous les continents. Et voilà comment Jean-Paul a commencé à voyager.
Donc toi, le voyage, finalement, il est venu par la voie professionnelle.
Par la voie professionnelle, exactement. Et donc, Madagascar, où on vivait le Camel Trophy tous les jours, hein. Ça, c'était incroyable parce que c'est des zones où il faut dégager carrément la forêt pour avancer avec des engins énormes qui vont vibrer le sol, etc. On enregistre toutes ces informations, etc. Ensuite, on m'a envoyé au Moyen-Orient, donc Irak, Syrie, Liban. Et je suis resté un an dans la zone. Ensuite, on m'a envoyé au Texas pour faire l'interface entre du matériel français et du matériel américain, Mandrel Industry, Houston. Et de là, j'avais 6 mois pour donner ma démission. Il y avait un projet en cours qui était bien caché avec des amis. C'était de partir faire le tour du monde, sac à dos. Ce sont les années 70. Là, en l'occurrence, on était en 1974. Et donc, 6 mois, j'ai donné 6 mois de préavis. Et le 7 octobre 1975, avec des amis, on est allé, on vivait rue de Paradis, déjà. Et chez un ami, à un moment donné, on s'est dit, tiens, ben voilà, c'est l'heure de prendre le train, d'aller prendre le train. Et il y avait l'ami qui restait à Paris, lui, chez qui on était, sur mon carnet de bord, il avait écrit « Un voyage de 1000 km commence par un simple pas ». Et le simple pas, c'était de franchir le seuil de sa porte. À partir de là, on avait nos sacs à dos et on a marché jusqu'à la gare du Nord. On a pris le train pour Moscou.
Donc on est parti de chez soi, simplement en ouvrant la porte dans l'idée de faire un tour du monde.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que déjà le tour du monde est né avant même de commencer à travailler en fait, avec mes amis. Parce que suite à mon anglais qui n'était pas bon, on a décidé, on était 4, on a décidé de partir en Angleterre, à Bournemouth, pour faire de l'anglais. Et déjà, on a émis l'idée de partir ensemble faire un tour du monde.
Mais là, en 75, donc quand tu pars avec tes amis pour faire le tour du monde, quelle était l'idée ? Simplement voyager ? Il y avait un projet derrière ? C'était découvrir de nouveaux peuples, de nouvelles cultures ? Pourquoi faire un tour du monde à cette époque-là ?
Alors, vraiment, c'est vrai que la question ne m'a pas été posée comme ça. C'était pas par, je crois pas que c'était par altruisme pour aller aider les peuples du monde entier, je crois pas du tout. Déjà, moi, j'avais une expérience du voyage quand même et de la rencontre des gens. Comme j'ai toujours bien aimé rencontrer les gens, de toute façon, effectivement, c'est partir à la rencontre des gens. Et c'était vraiment une époque où on se disait que tout était possible, on ne doutait de rien, la jeunesse aidant également, tu vois. Mon expérience propre du voyage par la société pour laquelle j'avais travaillé. Et donc, l'idée a mûri petit à petit, parce qu'au départ, c'était de partir, par exemple, avec une ou deux Land Rover, tu vois, pour partir par la route de France. Et en fait, à un moment donné, moi, j'ai émis l'idée qu'il fallait partir. L'idée majeure, c'était de dire, partout où il y a âmes qui vivent, il y a un moyen d'y aller, ne serait-ce qu'à pied. Tu vois? Et que, en fait, quand on allait arriver dans les îles comme l'Indonésie, l'Australie, etc., ça allait nous coûter très cher, sans doute, de ce véhicule, de le transporter d'un continent à l'autre. Et que dans ce cas-là, il fallait partir léger, c'est-à-dire sac à dos, et yalla shebab, comme on dit en arabe. Voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, regarde d'ailleurs, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et par contre, ce que je voulais, c'était partir loin, assez rapidement quand même, mais pas par avion. Parce que c'est important de sentir la terre et de sentir les distances. Et donc, quand on a pris, donc on reprend le train, Gare du Nord, si tu veux, et on part pour Moscou. Et de Moscou, on a pris un vol là, pour aller à Leningrad, à l'époque, Saint-Pétersbourg, donc, pour visiter, parce que quand même, ne pas louper un musée comme l'Ermitage, tu vois, c'était aussi le but du voyage, c'était d'aller voir les gens, les musées, la culture. Et d'ailleurs, j'arrive tout de suite vers une partie qui est plutôt à la fin du voyage, après 2 ans et quelques de voyage, et tu arrives en Inde et tu te dis, mais c'est incroyable, qu'est-ce que le monde est riche, qu'est-ce que de culture. C'est-à-dire qu'après des années de voyage non-stop, parce qu'il faut savoir que c'était du non-stop quand même pendant 2 ans et demi, c'était 2 ans et demi où on vivait de nos économies, c'est-à-dire qu'on ne travaillait pas nulle part, comme beaucoup le font. Et donc, et tu arrives au bout de 2 ans et demi, après avoir visité des musées partout, en commençant par l'URSS, le Japon, la Corée, etc., 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 et qu'au bout de 2 ans et demi de voyage, tu te dis, mais il y a encore des... Tous les jours, on fait « waouh ». Voilà. Alors, il faut que je dise quand même qu'on est parti à 5. Et donc, nous, en fait, on changeait de l'argent de temps en temps, durant notre voyage, mais l'argent était dans les poches et l'argent qui était dans toutes les poches était à tout le monde. Par contre, il y avait quelqu'un qui tenait la comptabilité de ce qui était versé au groupe. Et par contre, si quelqu'un voulait faire des dépenses exceptionnelles, il suffisait qu'il note lui cette dépense-là, je ne veux pas que ce soit à la charge du groupe. Alors ça pouvait être des choses comme Gérard Lecru, qui était un gourmand de chocolat, par exemple, il pouvait acheter du chocolat, alors que tu as un budget quand même pour 2 ans et demi, hein, que tu serrais. Et donc, il n'allait pas le manger tout seul. Donc, il le distribuait. Et puis, il disait, mais non, c'est quand même moi qui paye, quoi. Et moi, ça aurait été une bouteille de vin à Yogyakarta ou ailleurs. Donc, ça a aussi cimenté le groupe.
Ça crée surtout des souvenirs incroyables, ce genre de voyage à 5 pendant 2 ans et demi autour du monde. C'est vraiment des expériences qui restent gravées pour toujours. Et est-ce que j'ai perdu ma question en t'écoutant? Mais oui, si, je me demandais, à cette époque-là, 75, 76, 77, est-ce qu'on croise déjà beaucoup de monde sur les routes? Parce qu'aujourd'hui, quand on voyage, c'est incroyable le nombre de personnes en sac à dos ou de voyageurs. Est-ce que c'est déjà pareil en 75?
Alors, on se retrouvait, il n'y avait quand même pas beaucoup d'hôtels où se retrouvaient les routards. Mais d'un endroit à l'autre, on savait exactement où on allait débarquer. Tu vois, déjà, par exemple, en arrivant à Tokyo, il suffisait d'aller dans une auberge de jeunesse ou des choses comme ça, ou à Séoul, etc. Et tu rencontrais des gens qui te disaient, ah ben tiens, tu vas à Taïwan, bon, tel hôtel, pas cher, tel endroit, où aller. Et dans ces hôtels-là, en général, il y avait toujours un cahier, un record, un enregistrement de toutes les gens qui étaient passés, et avec des annotations, des conseils, etc. Alors, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui voyageaient à l'époque? Très peu d'Américains, par exemple. Proportionnellement à la population, pas mal de Suisses et de Belges, Hollandais, Français, très peu d'Espagnols et d'Italiens quand même à l'époque. C'était une question aussi de le niveau d'économie des pays aussi, peut-être, tu vois, qui faisait ça. Mais on pouvait très bien croiser des gens à Tokyo, les retrouver à Bangkok ou à Unjun Pandang ou voilà.
Mais essentiellement des Européens voyageaient alors. Tu n'avais pas de Chinois, de Japonais, de Coréens.
Israéliens à l'époque, voilà. Mais autrement, non, assez peu. Des Allemands, évidemment.
Mais des Européens. Aujourd'hui, on est chez toi à Bali. Donc là, tu me parles de ton tour du monde avec tes copains pendant 2 ans et demi. Bali était sur l'itinéraire. Est-ce que tu savais déjà que tu allais faire le choix d'y revenir pour t'y installer, ou à quel moment a commencé cette page de vie balinaise?
Voilà, alors venir s'y installer, absolument pas. Disons qu'à la fin du voyage de 2 ans et demi, au Népal, en allant de Katmandou à Pokhara, on n'était plus que 2 du groupe de 5. Hein, et on prend le bus pour aller à Pokhara. Et là, je monte sur le toit du bus pour faire les photos. Parce que j'étais le seul à faire de la photo. Hein. Et sur le toit du bus, il y avait une très jolie jeune fille qui est ma femme maintenant, et Daniel. Et donc, c'est là qu'on s'est rencontrés.
Sur le toit d'un bus entre Pokhara et Katmandou, c'est voilà. Beau.
Voilà, entre Katmandou et Pokhara. Et elle était là parce qu'elle était avec un copain qui, en fait, le bus qu'ils devaient prendre était tombé en panne. Eux, ils étaient en voyage très court, pas l'intention de rencontrer surtout des Français, tu vois, parce qu'ils ne sont pas venus en Inde et au Népal pour rencontrer des Français. Bon, il se trouve qu'on a fait un bout de chemin parce qu'on allait faire Jamosom Trek. Toi, nous,
le tour des Annapurna.
Pendant le tour de l'Annapurna, pendant une 15aine de jours. Et donc, eux ont décidé de nous accompagner un jour, et puis ensuite de redescendre parce qu'ils devaient repartir, quoi. Voilà.
Et tu disais, oui, aussi, dans ton voyage, tu étais le seul à faire de la photo. Donc, on n'en a pas trop parlé encore dans cette interview. Je t'ai rencontré à travers ton métier de photographe. Donc, quand est-ce que tu es devenu photographe? Comment est-ce que c'est passé?
Je suis devenu photographe. Alors,
qu'est-ce que c'est qu'être photographe aussi?
Il faut savoir que, par exemple, dans la ferme de mes parents, je retourne à la ferme là. Un jour, je suis allé le long d'une grange où il y avait des ronces, des orties, etc. Chercher un vieux vélo rouillé qui traînait là, un cadre de vélo. Et mon idée, c'était de fabriquer un agrandisseur. Et donc, dans le grenier, avec des sacs d'engrais vides, j'ai fait des cloisons, tu vois, des sacs en papier là. J'ai fait des cloisons pour faire une chambre noire. Et puis ensuite, j'ai fabriqué mon agrandisseur avec des vieux anciens, des cadres d'un vieux vélo. La boîte à lumière, c'était une boîte de lait en poudre de 5 kilos. Le condenseur, il y avait mon papa qui avait une vieille traction sous un tilleul qui était en train de pourrir. Je suis allé récupérer un phare parce que j'avais pas de lentilles pour faire un condenseur. Donc, c'était en centrant une ampoule, en la déplaçant légèrement, que j'arrivais à répartir la lumière. Et comme ça, j'ai pu faire des agrandissements de 30-40, tu vois.
Donc, ça a commencé bien avant ton tour du monde. La photo était déjà quelque chose qui te parlait.
Voilà, par rapport à mon frère aîné qui, lui, était allé en Algérie, bon, parce qu'il avait été appelé à aller en Algérie, et donc il avait un appareil photo, donc voilà, j'ai commencé à lui emprunter son appareil photo, et puis après ça, pour l'agrandisseur, il me fallait un objectif, donc il avait un projecteur aussi, donc je lui empruntais l'objectif du projecteur pour faire des agrandissements, tu vois, voilà.
Donc la photo, c'est quelque chose que tu as en toi depuis longtemps, et à partir de quel moment tu as pu commencer à en vivre?
Alors voilà, donc de retour en France, donc après ce tour du monde.
Donc plus question de bosser pour des compagnies.
J'ai bossé pendant 1 an et demi en fait en tant qu'électronicien pour quelqu'un qui importait du matériel pour le traitement des papiers et des films. Donc il commençait à y avoir beaucoup d'électronique dans ce matériel, et donc ça m'a permis d'aller voir dans beaucoup de labos en France aussi, tu vois, et en Europe. Mais j'ai travaillé 1 an et demi, et là, comme j'étais, je vivais avec Daniel, donc, et qu'elle était mannequin, et là, je lui disais, mais au Japon, tu ferais un malheur là-bas, tu vois, vraiment blonde, la coupe carrée, etc. Et effectivement, on a décidé de partir au Japon, de partir vivre au Japon, et donc, elle en tant que mannequin, et moi, avec l'idée de faire de la photo. Et de faire des reportages, parce qu'en fait, quand je suis rentré avec ma collection, peut-être 10aine de milliers de diapositives, les gens à qui je les montrais, ils me disaient « Mais tu devrais contacter la revue Partir, le Figaro, enfin, etc. etc. » Et donc, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à vendre des reportages comme ça, quoi. Une chose quand même si tu n'as pas le temps de le placer, une chose qui étonne tout le monde quand ils visitent la galerie et que je suis là, c'est que quand je leur parle du voyage, quand je suis parti avec des diapositives, donc des films, que les films, après être exposés, je n'allais pas les faire développer dans n'importe quel bouillon tu vois, dans le monde, en Asie, ailleurs. Et donc, je les expédiais à Odéon Photo, à Paris. Et je leur demandais pas de... J'étais toujours en déplacement. Donc, je leur demandais pas de me renvoyer les images développées. Donc, quand est-ce que j'ai vu les premières images que j'ai faites en URSS? Je les ai vues 2 ans et demi après. Et Odéon Photo m'envoyait en poste restante des films aussi. Je ne voulais pas faire avec n'importe quel film. Donc, il m'envoyait des films en poste restante. Ça veut dire que j'ai continué à faire des photos pendant 2 ans et demi sans jamais les voir. Donc, là, les jeunes qui n'ont fait que du numérique et qui sont habitués à voir leur image instantanément, ça les bluffe complètement, évidemment.
Bah, si tu veux parler d'avant et de maintenant, je vais te lancer là-dessus. Qu'est-ce que c'était, peut-être sur l'évolution de la profession de photographe, parce que c'est un métier qui fait rêver beaucoup de monde. Et photographe il y a 20 ans, et photographe aujourd'hui, c'est plus le même métier.
C'est plus le même métier. En même temps, il y a beaucoup de jeunes qui veulent apprendre la photographie, donc ils vont faire des écoles de photographie. Maintenant, le marché est immense aussi. Il y a des gens qui vont faire de la photo industrielle, il y en a d'autres qui vont faire des photos de mariage, beaucoup. Alors là, c'est souvent de la débrouille. Après, il y a la photographie de paysages artistiques, sous-marines, enfin, etc., etc., etc. Donc, je crois que petit à petit, on trouve sa voie. Alors moi, qu'est-ce qui fait que... Comment j'ai vécu pendant tout ce temps de la photo? Ça a été très, très simple parce que j'ai eu la chance de vivre les années d'or du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis allé... Quand je suis revenu du Japon, après 3 ans, j'avais un agent au Japon. C'est une japonaise qui m'avait arraché de chez moi en disant « Mais viens voir, faut que tu aies un agent, etc. » Et si, et puis comme je n'allais pas voir l'agent, elle a amené l'agent chez moi. Et donc, ça a commencé comme ça. Et après, quand je suis rentré à Paris, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Donc, comment trouver des agences dans le monde? Je suis allé à la poste du Louvre, la poste principale du Louvre, où il y avait tous les bottins téléphonique du monde, et là j'ai cherché photo agency en anglais, Bildagentur ou photo FOTO, bon je cherchais un peu random comme ça quoi, j'ai envoyé une vingtaine d'images que j'avais fait en duplicata quoi, au hasard un petit peu, et je me suis retrouvé quand même avec à peu près 30 agences avec qui je correspondais dans le monde. Et ensuite, quand j'allais quelque part faire des photos dans le monde, quand je mettais mon pied photo quelque part et que c'était la situation idéale, plutôt que de faire des duplicatas ensuite, quand j'avais mis un film et que je faisais une photo horizontale de quelque chose, j'appuyais sur le bouton et en quelques secondes, il y avait 36 vues de la même photo qui était faite. Et ensuite, verticale, par exemple, parce que si on est à quelque part, que l'endroit est idéal, la lumière est idéale, on a très 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 peu de chances de revenir et qu'il y ait les mêmes conditions optimales. Alors, il y a une seule chose, il ne faut pas se planter dans l'exposition, parce que dans ce cas-là, tout est à mettre au panier.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, regarde ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Jean-Paul, on est à Bali.
Il revient sur Bali. Il veut savoir comment je suis arrivé à Bali. Alors, je vais être la faire courte, comme ça j'aurais répondu à la question. C'est-à-dire qu'en voyage, on rencontre des gens. On avait rencontré, par exemple, un couple de Suisses qu'on adorait, Eric et Johanna, Eric Burkhard. Et donc, on a décidé de faire le 20e anniversaire de notre passage à Bali en 1996. Donc, puisqu'on était en 1995, puisqu'on était parti en 1975. Mais, pour des raisons de convenance, quelqu'un ne pouvait pas venir en 1995, donc on a décidé de le faire en 1996, juillet. Et on est venu en juillet 1996. Et alors qu'avec ma femme Danielle, on avait vécu beaucoup en Asie, 3 ans au Japon, à Tokyo, et naviguer pas mal dans toute l'Asie. On n'était quand même pas venu à Bali, parce que Bali, c'est addictif, donc c'est le piège, peut-être. En tous les cas, ce qui fait que quand on est venu à Bali, tous ensemble, là, pour Daniel, c'était une découverte. Et donc, on est venu en juillet, mais en septembre, aux vacances de novembre, vacances scolaires, on était déjà de retour ici pour voir s'il y avait une école française que l'on a trouvée au Malas. Et on a loué une villa pour le dernier trimestre de l'année suivante, c'était en 1997. Et ce qui fait qu'en 1997, vers avril 1997, on a déménagé de Paris en Bourgogne, où on a une maison. Et on a débarqué ici avec nos valises, avec peu de choses dedans. Et d'ailleurs, c'est là qu'on retrouve le voyage et le goût du voyage. C'est-à-dire qu'on a besoin de peu de choses pour vivre dans la vie. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'était en 1977, donc, en Inde, tu connais les sadhus, qui se baladent nus. Ils ne possèdent rien, sauf les quelques poux qu'ils ont dans la tête, peut-être, et qui ne possèdent absolument rien. Et moi, à l'époque, donc en 1977, je me suis dit, mais ça, c'est la vraie liberté. Ne rien posséder. C'est pas toi qui possèdes les objets, c'est les objets qui te possèdent. Mais j'avais rajouté une petite chose derrière, ne rien posséder, mais une carte de crédit. Quand même. Et donc voilà.
Relié elle-même à un compte en banque.
Voilà, et relié à un compte en banque. Et donc ça peut marcher très bien, effectivement. Et c'est pareil dans la photo d'ailleurs, quand je dis posséder trop, quand on démarre en tant que photographe, on pense que les photographes professionnels sont très très bons parce qu'ils ont plein de matériel, et en fait c'est pas vrai du tout. On peut être très bon photographe avec n'importe quel appareil photo, je dirais, mais c'est pas la quantité de matériel. Alors évidemment, tu peux faire des choses avec des optiques particulières. Je crois qu'être photographe, c'est dans l'œil plutôt du photographe qu'il faut aller. Et c'est pour ça que dès que j'ai vu tes photos, j'ai vu qu'il y avait cette sensibilité-là.
Merci. Je suis tout rouge, là. C'est ton interview, c'est pas le mien.
Et d'ailleurs, je te l'ai dit déjà, d'ailleurs au téléphone avant de te rencontrer, c'est que dès que j'ai vu tes photos, j'ai vu que quand même instantanément, il y avait une relation particulière entre les personnes photographiées et toi-même.
Allez, aujourd'hui Jean-Paul Nassivet, donc tu es photographe, tu vis sur Bali, tu as plusieurs galeries ici.
Galeries en 3 ans, donc, qu'on a ouvert ici. Et par contre, pour des raisons aussi de sécurité, je pense, parce que quand on voit ce qui arrive à la pauvre Tunisie ou à l'Égypte, on a eu des attentats déjà ici. Donc, ça représente un gros investissement quand même, sachant qu'ici, quand tu prends un loyer qui peut être élevé, tu vas payer 2 ans et demi, 3 ans d'avance, par exemple. Puis en plus, nos clients, ils viennent d'où ? La plupart, il y en a qui viennent d'Asie, évidemment, mais il y en a aussi beaucoup qui viennent d'Europe, énormément, quoi. Australie, États-Unis. Donc, je pense qu'on va ouvrir à Paris, ouais.
Une galerie qui s'appellera Nassivet.
On travaille sur un nouveau site, parce que j'avoue qu'on a consacré plus de temps aux galeries qu'au site, même si souvent, les gens qui achètent sur le site, ce sont des gens qui sont passés dans les galeries. Et voilà.
Jean-Paul, je te dis merci beaucoup. Et donc, pour en savoir plus sur ton travail photographique, Jean-Paul Nassivet, nassivet.com. Voilà. Et on te trouvera et on aura l'adresse des galeries, merci. Soit ici à Bali, soit les galeries en France. Merci Jean-Paul.
Je t'en prie Alexandre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Thank you.